Bonjour à tous les auditeurs de Radio Tintouin. Vous êtes sur la fréquence 101.8, vous êtes en direct de la résidence Domitys Le Village à Vierzon et nous avons l'honneur d'accueillir les résidents de Romorantin de la résidence Le Jardin des Trois Rois. Merci Anne-Sophie d'être avec nous pour cette émission. Nous allons vous présenter l'émission Le Rendez-vous du Bonheur. Anne-Sophie, un petit mot ?
Merci Julie, bonjour à tous. Merci aux résidentes de nous accueillir à la résidence de Domitys Vierzon. Nous sommes honorés de pouvoir faire cette émission avec vous, en partage, en collaboration. Et puis ben voilà, bonne audition à tous.
Nous allons débuter l'émission avec les résidents de Vierzon. Nous allons parler cuisine, gourmandise. Et on va commencer avec Gilberte sur une histoire sur les gaudes. Alors on vous écoute Gilberte.
Eh bien, savez-vous ce que c'est que les gaudes ? Non. Eh bien, c'est une bouillie de maïs torréfié. Et ça vient de la Franche-Comté, de la Bresse. Alors, le maïs, ça vient d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, je ne sais pas exactement. Ça a été rapporté en Europe par Christophe Colomb, et c'est passé en Espagne, et c'est arrivé en France vers 1620. En Franche-Comté, en Bresse plus exactement, et comme les gens avaient peu à manger à ce moment-là, ils se faisaient de la bouillie de maïs. Et moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais adolescente, d'aller dans le Jura et de manger cette bouillie de maïs. Et quand on mangeait cette bouillie de maïs, on trouvait que c'était très, très bon. En fait, ils mangeaient ça, eux, dans le temps, parce que ça tenait bien au corps, quoi. Alors, donc, voilà, je vais vous lire la recette actuelle. C'est une sorte de bouillie de farine de maïs torréfiée. Mettre à ébullition environ 2 litres d'eau avec 20 grammes de sel. Délayer la farine de maïs, environ 1 kilo, disent-ils, à l'eau froide. La verser dans l'eau bouillante en remuant à la spatule pour éviter la formation de grumeaux. Continuer la cuisson sur le côté du feu et en remuant constamment pendant environ une demi-heure. En dernier lieu, ajouter du beurre frais ou du lait ou de la crème légère et chacun se sert à volonté. Pour les amateurs, le meilleur, paraît-il, c'est le gratin qui se forme au fond de l'ustensile durant la cuisson. Les gaudes peuvent aussi se manger froides. Et on peut aussi en faire des sablés, des choses comme ça. Alors moi, j'ai regardé sur Internet et je ne sais pas où on peut se procurer cette farine de maïs parce qu'elle est torréfiée. Et finalement, j'ai trouvé un endroit où on peut la commander, mais il faut écrire là-bas en Bresse. Et je vais essayer de le faire parce que je voudrais bien retrouver ça.
Oui, ça se fait peut-être que dans la région.
Ça se fait que dans la région, oui. Et on s'en sert aussi pour, quand ils faisaient le pain, alors ils pétrissaient le pain à la main. Hein. J'ai vu des amis à moi le faire. Et après, on prenait, quand c'était bien pétri, on laissait se monter, quoi, parce qu'ils mettaient un levain qui se passait de famille en famille. Et puis ensuite, on prenait une boule, on la mettait dans une panière en osier qui avait des gaudes, c'est-à-dire il y avait de la farine de maïs torréfiée au fond, de façon à ce que ça ne s'accole pas. Et puis ensuite, on allait verser ça sur des grandes spatules en bois qu'on enfournait dans un four collectif qui servait à tout le village.
C'est vraiment quelque chose de régional.
Tout à fait, c'est régional. Et malheureusement, ce four que j'ai bien connu, ils l'ont démoli, il a disparu, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, alors les gaudes. Et puis, oui.
Merci Gilberte.
Merci Gilberte.
On va poursuivre avec Solange. Oui. Vous avez un poème à nous lire. Oui. On vous écoute, Solange.
Nourriture. puisque nous avons été sages et que nous avons bien chanté, racontez ce qu'il se mange. Petite mère, racontez. Ce qui est plus blanc que le linge, ce qui sent la ferme et les champs, et les hameaux et les villages, racontez-nous le lait, maman. Ce qui est si beau, si fragile, ni rond, ni carré, ni pointu, et que l'on trouve dans les poules, raconte-nous les œufs, veux-tu. Ce qu'on voudrait donner aux pauvres, on y pense quand on a faim. On en parle dans tous les livres. Maman, raconte-nous le pain. Racontez-nous toutes ces choses-là. Et ce qu'il faut manger pour être plus fort. Toutes les choses merveilleuses, nous n'avons pas sommeil encore. Georges Duhamel.
Merci Solange. On va rester en cuisine. Je pense que vous avez tous des petites astuces de cuisine. Nous, avec les résidentes, on en a choisi quelques-unes. Du coup, je vais vous en lire une. Est-ce que vous connaissez l'astuce pour réaliser une vinaigrette parfaite ?
Avec du miel.
Bonne idée. Non, là, c'est vraiment... en fait, il y a un sens pour réaliser la vinaigrette. Oui. Une astuce, oui. La vinaigrette faite maison est bien meilleure que la vinaigrette industrielle, évidemment. Mais la petite astuce pour rendre la vinaigrette parfaite, c'est l'ordre dans lequel on mélange les ingrédients. Le sel, le poivre, le vinaigre, moutarde et finir avec l'huile d'olive. En effet, le vinaigre permet au sel de mieux se dissoudre et donc de donner plus de goût à votre vinaigrette. Alors que si on met l'huile en premier, les ingrédients ne se mélangeront pas homogènement. Voilà pour la petite astuce. Du coup, je vais vous citer une autre astuce qu'on avait vue donc avec Gilberte. Une astuce pour éviter les larmes lorsqu'on épluche un oignon. Est-ce que vous en connaissez, vous ? Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme astuce ?
Soit dans l'eau ou alors avec un sac, avec un plastique par-dessus, les éplucher en dessous.
Ah, c'est une bonne idée.
D'accord.
Ça.
Je ne connais pas.
Pardon.
Ah oui ? Ok.
J'en ai entendu d'autres, mais je ne les ai plus en tête.
Oui, moi j'ai entendu parler des gens qui ont filé un bout de pain au bout du couteau.
Ah oui.
Un bout de pain.
Je peux pas dire si c'est efficace, j'ai pas essayé.
Et est-ce que vous avez essayé des astuces justement pour pas pleurer lorsque vous coupez un oignon, enfin quand vous l'épluchez ?
J'ai essayé ça parce que quelqu'un m'avait dit un jour que ça pouvait être efficace. Je ne peux pas garantir l'efficacité.
D'accord.
Ouais, l'astuce de madame, là,
c'est vrai, ouais, c'est véridique.
Ouais, c'est...
Donc moi, je vais vous en lire une. Il existe de nombreuses techniques, évidemment, pour éviter de pleurer lorsqu'on épluche un oignon. Mais la plus efficace reste celle de l'eau dans la bouche. Mettre de l'eau dans sa bouche permet au gaz qui s'échappe de l'oignon de se diriger vers celle-ci et vers l'eau qu'on a dans nos yeux, en fait. Donc le fait d'avoir de l'eau dans notre bouche permet... au gaz, d'aller directement... Oui, il faut garder la bouche ouverte, évidemment. C'est très pratique. Un petit oignon, voilà. Non.
Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
On va poursuivre avec Gilberte, à nouveau. Vous allez nous raconter l'histoire des haricots séchés.
Parce que ça, j'ai vu ça aussi dans le Jura. J'avais jamais vu ça ailleurs.
Et quand il récoltait les haricots verts, je ne sais plus comment ils faisaient, mais je sais qu'on les enfilait sur un fil et qu'on les mettait à sécher au-dessus de la cheminée. Les haricots verts. Et puis après, je ne sais pas.
Alors, sur Internet, j'ai regardé. Donc, dans un article, ils indiquaient qu'on enfilait les haricots à écosser sur un fil et suspendus dans un endroit sec, à l'abri du soleil, jusqu'à ce qu'ils soient complètement séchés.
Oui.
Une fois les haricots séchés, on pouvait les ranger dans un sac en tissu ou en papier ou dans des bocaux, des boîtes de conserve ou des sacs en plastique. Il n'y avait pas besoin de sacs hermétiques puisqu'ils se conservaient quelques années bien emballés et rangés sur une étagère à l'abri du soleil. On conservait les haricots de cette manière afin de fournir les protéines nécessaires pendant de longs hivers. Donc il s'agissait d'une tradition des tribus du Sud-Est, et les Cherokees contemporains continuent à utiliser cette méthode.
Mais c'était des haricots secs.
Voilà, oui.
Tandis que moi, ce que j'ai vu, c'était des haricots verts.
Oui, mais là, c'est des haricots verts aussi. Des haricots verts aussi.
Frais.
Voilà.
Oui, mais qui donneront des grains.
Des coches, oui.
Oui.
Ah, tandis que moi, ce que j'ai vu,
c'était des haricots verts. Mais là, sur les photos aussi.
Alors, je suppose qu'après, il les remettait à tremper.
Peut-être.
Et puis la cuisson enlevait les microbes.
Sans doute, oui, parce que sinon...
On va poursuivre avec Françoise.
La vie, c'est comme le chocolat. Il y a des moments chocolat blanc, un peu fade et sans surprise, des moments chocolat au lait, plein de douceur et de tendresse, des moments chocolat noir, fort, intense, excitant, passionnant, mais parfois agressif, légèrement acide, si ce n'est amer. Il y a des imprévus comme autant de noisettes, amandes, fruits, fleurs, herbes, épices ou alcool, qui tantôt nous surprennent, tantôt nous séduisent, mais parfois nous déplaisent. Il y a des moments pleins de richesses, souvent simples parcelles d'or, mais aussi pépites, pistoles et même lingots, mais parfois mendiants. Il y a des éclats de rire, comme des éclats de fèves. Le chocolat, c'est comme la vie. On peut tout faire, tout oser, pas n'importe quoi. Tout est question d'équilibre. Dans un carré de chocolat, il y a des parfums de voyage, des souvenirs d'enfance, des promesses de bonheur. Aussi, je vous souhaite de ne jamais vous retrouver chocolat, sans chocolat sous la main et pire, sous la dent.
Ah, c'est bien.
Ah, il est bien, hein. Ça, c'est bien pour moi, ça. Parce que c'est pour la gourmande. Oh, pardon, il ne faut pas le dire, hein. C'est pour la grosse gourmande que je suis.
Merci Françoise. On va aller voir Marguerite. Vous allez nous parler du gâteau Solonio.
L'étang Solonio, c'est pas compliqué, hein. Il est fait avec des biscottes, alors il n'y a pas besoin de préparer de la pâte. Alors oui, ça s'appelle étang Solonio. Quelques biscottes, oui, ça dépend de la grandeur de votre plat. Hein. Alors, quelques biscottes, 2/3 de verre d'eau, 1/3 de verre de rhum, 2 œufs et 1 cuillère à bouche de farine. 50 g plus 40 g de sucre et 1 demi-litre de lait. Garnir de biscottes un plat allant au four, les asperger de rhum étendu d'eau, mettre au four 5 minutes, faire bouillir le lait dans une casserole, sauf 1 demi-verre, avec les 50 g de sucre. D'autre part, délayer la farine ou la maïzena avec 1 demi-verre de lait froid et ajouter les jaunes d'œufs, bien battre. Réchauffer ce mélange avec un peu de lait chaud, verser dans la casserole et faire cuire doucement jusqu'à épaississement, en tournant toujours. Battre les blancs en neige très ferme, les sucrer avec les 40 g de sucre. Déposer des boules de meringue sur la crème et décorer avec ça à volonté, hein, saupoudrer de sucre et faire dorer au four. Oui, vous faites des petits tas, comme pour, c'est pour ça, étang Solonio, parce qu'on voit l'étang et puis les petites boules qui... Voilà. Et servir froid. Voilà. Je peux vous dire que c'est très bon et que j'en ai fait, je ne saurais pas vous dire combien, ma maman pareil. Et aujourd'hui, c'est mes filles qui s'exécutent quand elles ont des invités. Voilà.
Bon, mais merci Marguerite.
Mais c'est tout simple. Hein.
Est-ce que vous connaissez la recette du gâteau Solonio, de l'étang Solonio? Non, vous ne connaissez pas?
Je ne sais même pas, non.
Mais d'accord. Il n'y a qu'une Solognotte qui peut connaître ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ah bon.
Tu connais Anne-Sophie?
Je suis oui. Parisienne. Moi, j'ai toujours
des biscuits. Eh bien, vous régalerez, je vous le dis.
Oui, ça doit être bon. On va essayer.
On pourra vous donner une photocopie à la sortie, si vous voulez.
Hein, tout Julie? À fait, oui, oui, tout à fait. Voilà. On va retourner voir Gilberte.
Ah oui, alors, quand j'étais jeune, pendant la guerre, j'allais souvent en colonie de vacances parce que pendant ce temps-là, mes parents savaient que j'aurais au moins à manger normalement. Et on nous donnait, alors cette année-là, c'était à la Bourboule, et on nous donnait, on nous faisait une bouillie avec du lait et des flocons d'avoine. Et puis, il n'y avait pas de pain. Alors, on nous donnait du bleu d'Auvergne. Alors, ce qu'on faisait, ben, on le mettait dans notre lait sucré, le flocon d'avoine. On écrasait le tout, puis on mangeait ça. Et c'était très bon.
Oui, fromage avec...
Ben oui.
Pourquoi pas?
Et vous mangez au moins.
Les flocons d'avoine, oui. Parfois, je mets même des raisins.
Oui.
Oui, c'est du porridge.
Bien sûr, mais oui. Mais là, on n'avait que les flocons d'avoine et puis du bleu d'Auvergne.
Vous mangez au moins.
Oui, et c'était très bon.
Justement.
Merci Gilberte. On va terminer l'émission avec les résidents de Vierzon avec une chanson. On va écouter Marguerite qui va nous chanter Salade de fruits.
Allons-y pour la salade de fruits. Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits. Ah, quel joli nom. Au nom de tes entrailles savoyardes, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on se marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce palmier qui bouge, c'est un joli berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit.
Bravo. Alors, puisqu'on parle de nourriture, que dis-tu du potage? Que dis-tu du rôti? Que dis-tu du fromage, des légumes et des fruits? C'était mauvais, c'était détestable, même le chat n'en voulait pas.
Oh là là,
c'était mauvais, c'était détestable, même le chat n'en voulait pas. Mais non, mais c'était pour rire. C'était très bon, c'était délectable. C'était un vrai festin de roi. C'était très bon, c'était délectable. C'était un vrai festin de roi.
Bravo,
bravo. Radio Tatouin,
la radio qui fait le lien, qui fait du bien,
et parfois qui fait quoi quoi.
On va laisser la main au résident de Romorantin, du coup.
Je vous présente Raymond.
Voilà, je me présente, je suis Raymond de Romorantin. Je vais vous parler un petit peu d'un truc qui a rempli le reste de ma vie après la retraite. J'ai acheté un pavillon, une vieille maison qui avait aux environs de 500 ans d'après les dires locaux. Et nous avons pris la décision avec ma femme de l'époque, enfin ma femme qui maintenant est décédée, de retaper cette maison entièrement, c'est-à-dire la totalité du terrain, enfin, etc. Nous avons commencé par refaire les planchers, il n'y en avait plus, c'était des vieux planchers à 1m40 du sol, dans lequel vivaient les animaux. Et il y avait un plancher au-dessus qu'on a supprimé pour faire une dalle pour pouvoir visiter, pour pouvoir vivre là-dedans. Après avoir rechangé quelques poutres qui avaient disparu avec le temps, puisque une des personnes qui avait à l'époque 95 ans, c'était dans les années 80, elle n'avait jamais connu quelqu'un ayant habité dedans, ni jamais entendu parler de quelqu'un ayant habité dedans. Le toit était en lauze et la totalité de la maison était construite à l'époque avec des petites pierres et de la terre sèche. Donc nous avons fait des efforts, nous avons fait un enduit intérieur pour retenir ces pierres, quoique moi j'aurais préféré les garder, mais pour la solidité, on a préféré refaire faire un enduit et faire une dalle. Nous avons gardé la cheminée, nous avons fait une mezzanine dans la partie supérieure, et nous avons équipé les chambres, les parties inférieures, soit une partie en salle de bain et une autre partie aux réserves de nourriture, enfin, etc., pour conserver les aliments et puis mettre là-dedans les frigos, enfin, etc. Nous avons vécu pendant 8 ou 10 ans dedans, et puis pour des raisons de santé, ma femme a décidé de remonter plus près de ses enfants qui sont dans la région parisienne et près de sa sœur et de son frère qui habitait à côté de Romorantin à Tours-en-Sologne. Et donc nous sommes arrivés là en 2001 et malheureusement ma femme en 2015 est morte d'un cancer. Ce qui m'a fait intégrer Domitis Romorantin. Chose que je ne regrette pas. Merci.
Merci. Merci, M. Bonny.
Vient ensuite Gisèle.
Alors moi, c'est du plus court, hein, c'est du vécu. Hein. Le jour de mes 17 ans est aussi mon premier jour de travail à Paris dans un laboratoire en tant que sténodactylo. Dans le bureau se trouvent plusieurs personnes. L'une d'elles est de mon âge et nous avons tout de suite sympathisé. Devenue amie, je l'ai invitée un week-end de chez moi où se trouvait mon frère. Ces deux-là se sont tout de suite plu et mariés quelques mois plus tard. Alors, à cette occasion, j'ai fait la connaissance du frère de ma belle-sœur. Et devinez ce qui arriva.
Ah, vous êtes mariés.
Le mariage à notre tour. Dès le lendemain, nous sommes partis en voyage de noces à Nice. Et en arrivant sur la promenade des Anglais, nous avons eu la surprise de voir les palmiers recouverts de neige. C'était magnifique. Nous étions le 4 mars 1956.
Palmiers en neige à cette époque-là.
Ah oui, c'était magnifique, magnifique.
Nous allons écouter Yvonne.
Bon, alors, je m'appelle Yvonne d'Archy. Je suis aussi à la résidence de Romorantin depuis le 1er octobre 2015. Et puis dernièrement, il m'a pris la fantaisie de vouloir écrire. J'ai toujours écrit, j'ai fait plusieurs poèmes. Et j'avais envie d'écrire un peu sur ma vie. Et puis, j'ai fait une autobiographie qui a été éditée, qui s'appelait Le Chamboultou. Et puis, j'ai récidivé en faisant un condensé sur le fait de ne pas vouloir rester seul et ce qu'on peut faire quand on a peur d'être seul et se mettre éventuellement en danger. Alors, tout ça, c'est raconté dans un livre qui s'appelle Les péripéties d'Adèle. Donc, je ne cache pas qu'Adèle, c'est moi. Mais en principe, c'est raconté par une amie, une amie qui est mon amie, qui prétend avoir connu Adèle et l'aimer comme sa sœur. Alors voilà, j'ai au niveau du résumé du livre, c'est Adèle, la quarantaine, a cessé de travailler à l'âge de 30 ans pour raison de santé. C'est une femme au caractère entier, mais fragilisée, qui après son divorce ne supporte pas de rester seule. Pour rompre avec cette si pesante solitude, elle entreprend alors de nombreuses recherches, de jeux télévisés en petites annonces du journal local ou sites de rencontres sur Internet. Elle se trouve souvent confrontée à des déceptions, voire des désillusions. C'est ce que nous raconte sa meilleure amie dans ce récit savoureux, grâce à des anecdotes invraisemblables, cocasses ou désespérantes. Puis elle enchaîne avec l'amour indéfectible qu'elle porte aux animaux, surtout les chats, qui, eux, ne l'ont jamais déçue. Les derniers chapitres, d'ailleurs, leur sont dédiés. Alors, il y a aussi au niveau de le... à propos de l'auteur. Donc, l'auteur, c'est moi. Je m'appelle Marie Sicrade, c'est-à-dire j'ai fait l'inverse de mon nom et j'ai pris mon deuxième prénom. L'auteur est une femme sensée qui entretient des liens amicaux avec l'héroïne de son récit, bien qu'elle ne la comprenne pas vraiment. Elle a le même âge qu'Adèle. Elle vit également très mal une solitude imposée, mais à laquelle elle s'est habituée tant bien que mal. Parfois, elle en souffre et parfois, elle trouve cela plutôt pratique. Personne à qui rendre de compte ou lui dicter sa conduite. Elle apprécie aussi qu'on ne dérange pas ses affaires, que sa maison ne se transforme pas en chantier. Pourtant, elle aimerait bien partager des moments de bonheur ou ses soucis avec un tiers pour qui elle aurait de la tendresse et qui peut-être la cajolerait dans ses moments de déprime. C'est pourquoi elle sait si bien ce que représente cette quête désespérée que mène Adèle pour avoir un ami sincère sur qui compter.
Et voici Pierre.
C'était dans cette belle ville de Tours, il y a une dizaine d'années. Alors que je commandais un petit noir au zinc du café du quartier, gentiment, le patron me dit que je n'avais plus le droit d'utiliser cette expression pour commander un café. Alors lui dis-je, puis-je commander un petit blanc sec ? Embarras de ce brave homme. Allons, sachons raison garder, réagir contre certaines un peu ridicules interdictions de langage. Et ainsi, continuons à en voir de toutes les couleurs. Alors, a-t-on encore le droit de rire jaune ? Ou lorsque la colère nous rattrape, de voir rouge ? Sans être taxé de raciste, peut-on encore avoir une peur bleue ou broyer du noir ? Tout le monde le sait pourtant, les blancs sont toujours battus en neige. Et ceci est écrit noir sur blanc sur les recettes de cuisine. Je sais, certains pays font leur richesse grâce à leur noir. Pendant que nous, habitants de cette belle France, nous avons l'or blanc qui, chaque hiver, enrichit nos stations de montagne. Malgré notre matière grise, même si de temps en temps nous aimons nous mettre au vert, il nous est parfois arrivé de faire travailler au noir un copain ou un ami. Sous peine de prendre une prune gracieusement offerte par la Maison Bleue, au feu orange, nous devons stopper notre véhicule. Vous, mesdames et chères compagnes, vous êtes toujours, pour notre grand plaisir et celui de nos fines papilles, de fins cordons bleus. Et souvent mieux que nous, vous avez la main verte. Qui n'a jamais été dans le rouge sur son compte bancaire ? Par ailleurs, que nous soyons originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Europe, nous pouvons tous faire un mariage blanc. Pourtant qu'il est bon de voir la vie en rose, même si cette jolie fleur a des épines qui peuvent nous blesser. Avec tous ces interdits, même si nous sommes encore un peu fleur bleue, je crains que nous en sortions un peu marron. Ceci dit, dans un pays vinicole comme le nôtre, même au risque d'avoir une visite dans nos chais, de rentrer un peu noir, qu'il est bon de déguster un bon verre de rouge, un bon verre de blanc ou un bon verre de rosé. Allons haut les cœurs, blanc, noir ou jaune, soyons fiers de la couleur de notre peau tout en respectant celle des autres. Mais j'ai bafouillé un petit peu.
Alors j'ai le choix entre deux choses. Donc je parle d'une chatte que j'ai gardée 20 ans et puis que j'ai fait euthanasier. Alors j'ai posé mes sentiments une fois rentrée chez moi après cette euthanasie. C'est triste, oui c'est triste. Alors c'est plus gai, c'est quand je suis allée voir Bachelet. à l'Olympia. Alors,
on ne dénigre pas votre texte.
Non, non, mais j'imagine. De toute façon, dans le livre dont j'ai parlé, les deux derniers chapitres sont consacrés à deux chats. Voilà, cher Pierre Bachelet, assez profane en matière de poésie, je vous ai écrit ces quelques rimes par trop simplistes, ma foi, espérant toutefois que vous les apprécierez à leur juste valeur de sincérité. J'aurais toutefois voulu être plus original et jongler avec différents titres ou paroles de vos superbes chansons pour vous dire, par exemple, qu'en ce temps-là, j'avais 46 printemps. Il m'arrive très fréquemment d'avoir les yeux fontaine et le cœur caillou, car c'est hélas le triste lot des gens non conformes à la norme et qui souffrent de solitude. Je suis encore pleine d'un amour passion qui s'est enfui et à qui, à ma façon, j'ai dit aussi « alors tu t'en fous ». Et devant qui je suis tombée plusieurs fois à genoux, tant il a joué au marionnettiste. Depuis, j'ai connu quelques-uns qui ne savent pas s'arrêter, qui veulent croquer la vie par les deux bouts et qui ne se réchaufferont jamais sans jamais réchauffer personne. J'ai très peu de goût à sortir seule. Les transports en commun me sont pénibles à cause d'un léger handicap d'équilibre. Mais j'avais très envie d'aller vous écouter dans une ambiance chaleureuse comme cela peut l'être à l'Olympia, salle magique. Aussi me suis-je fait violence ce dernier dimanche de votre récital pour m'y rendre seule, sans l'avoir prémédité et n'ayant trouvé personne pour m'accompagner. Je dois dire que je ne regrette pas du tout ce coup de tête qui s'est transformé en coup de cœur. Pendant tout le récital, j'étais en communion avec vous et lorsque vous avez clamé que vous déraillez pour l'une d'entre nous, évidemment, ce ne pouvait être que pour moi. J'étais au comble de bonheur, mais bien que, vous soyez au rendez-vous, je n'ai pas tout oublié. D'innombrables pensées se bousculaient dans ma tête, alors je buvais vos paroles. Quand le spectacle a été fini, je n'arrivais pas à partir. Mes mains brûlaient tant je vous avais applaudi et rythmé vos chansons. J'en ai gardé un bleu à la paume gauche. Et mon équilibre déjà très précaire en temps normal s'en trouvait encore plus perturbé. Je ressentais dans mon crâne les effets des applaudissements frénétiques et de l'enthousiasme général, mais j'étais si heureuse. Je pense qu'alors mon visage devait irradier et paraître beau comme lorsqu'on est amoureux. Pour ces instants mémorables, cher Pierre, je vous dis du fond du cœur merci. Je ne peux pas vous jurer que je n'aimerais que vous. Mais pour sûr, je vous oublierai jamais. Et si éventuellement je pouvais vous rencontrer, ce serait un immense plaisir et un grand honneur pour moi. Permettez à la Parisienne que je suis d'embrasser amicalement le garçon qui n'avait d'horizon que le charbon, mais dont le soleil est dans le cœur. Alors, le poème que j'ai envoyé avec. Ce dimanche, pourtant ensoleillé, s'annonçait triste à rester couché. Une farouche détermination, jointe au désir de vous applaudir, de mon inertie en eut raison et à l'Olympia m'ont fait venir. Bien placé, pas très loin de la scène, on peut dire que j'ai eu de la veine. Tout près de moi, vous êtes apparu dans un tonnerre d'applaudissements. J'avais les yeux mouillés d'être ému et mon cœur palpitait follement. Il s'est alors passé quelque chose, j'ai ressenti comme une symbiose. J'ai chanté et mes mains ont frappé. J'étais heureuse, ne voyant que vous. Abandonnant toute timidité, j'aurais voulu voler jusqu'à vous. Ma naturelle spontanéité à vous écrire ces vers m'ont poussée. Pour vous remercier sincèrement et vous faire partager le bonheur que j'ai ressenti intensément durant deux inoubliables heures. Voilà.
C'est bien.
Merci à tous. Je crois que l'émission est terminée. Je remercie les résidents de Romorantin pour votre belle participation pour cette première. C'était formidable. Merci pour ces récits de vie, ces petites histoires. Merci Anne-Sophie pour son accompagnement. Merci à mes chroniqueuses de Vierzon, toujours au poste, fidèles. Merci à vous de votre présence. Et puis, à bientôt pour une prochaine. Merci à tous.
Chez Domitis, on est si bien, nous les anciens. On a toujours le cœur en fête, on est si bien. Qui ça, nous les anciens? Où ça, chez Domitis?